tout de suite après, ben, ça dépend de votre Bible, oui. Tout de suite après les juges. En français courant, c'est tout de suite après les proverbes.
On est le chapitre 1 au complet.
À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans les régions fertiles du pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec mourut et Noémie resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Une dizaine d'années plus tard, Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Au pays de Moab, Noémie apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors elle se prépara à retourner au pays de Juda avec ses deux belles filles. Elles partirent ensemble, mais en chemin, Noémie leur dit, « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Qu'il vous permette de rencontrer chacune un mari, de trouver le bonheur dans sa maison. Puis elle embrassa ses deux belles filles pour prendre congé. Mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent, « Non, nous t'accompagnons dans ton pays. » Noémie reprit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous. Laissez-moi. Je suis trop vieille pour me remarier, et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même, j'aurai un mari qui me donnera des fils. Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, c'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. » Les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé. Mais Ruth refusa de la quitter. Noémie dit à Ruth, « Regarde ta belle-sœur et retourne vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. » Mais Ruth répondit, « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Quand Noémie vit que Ruth persistait à vouloir l'accompagner, elle cessa d'insister. Elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée provoqua de l'excitation dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient, « Est-ce vraiment Noémie? » Noémie leur déclara, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu Tout-Puissant m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Ne m'appelez donc plus Noémie, puisque le Seigneur Tout-Puissant s'est tourné contre moi et a causé mon malheur. » C'est ainsi que Noémie revient du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille, Moabite, lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem. On commençait juste à récolter l'orge. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes conscients, Seigneur, que cette parole que nous lisons ce matin, que tu places devant nos yeux, cette parole, elle est descendue du ciel, Seigneur, parce qu'elle vient de toi. Et Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir la lire, de pouvoir la contempler, de pouvoir la méditer. Et surtout, Seigneur, par-dessus tout, non seulement nous contenter de l'entendre, mais de la mettre en pratique, qui est la partie la plus difficile, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous te demandons ton aide, te demandons ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est capable de sonder les cœurs de chacun ici présent ce matin, qui connaît les besoins de chacun sans exception, et Seigneur, qui est capable, parce qu'il en a la puissance, de répondre aux besoins de tous et chacun. Seigneur, tu as une portion en réserve pour nous, et ce matin, nous voulons non seulement ouvrir nos oreilles, mais surtout notre cœur, Seigneur, afin d'être réceptif à ce à quoi tu veux révéler à ton Église. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Le livre de Ruth. Qui a lu le livre de Ruth dernièrement? « Alors, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui ont été écrites pour nous enseigner la vérité, pour convaincre, pour corriger les fautes et former une juste manière de vivre. Et l'histoire de Ruth ne fait pas exception. Les événements racontés dans le livre de Ruth, eh bien, se situent au fait rapporté dans la première moitié du livre des Juges. Et combien de personnes, frères et sœurs, d'ailleurs, l'auteur l'a dit, du temps des juges ou au moment où les juges régnaient en Israël. Donc, c'est vraiment un livre qui a été écrit à cette période de l'histoire des Israélites. Et ici, eh bien, il y a beaucoup de gens qui lisent ce livre et qui voient rien d'autre qu'une petite histoire d'amour entre Ruth et Boaz. Pourtant, ce livre nous révèle autre chose qu'une touchante histoire ou une touchante idylle. Par-delà l'histoire de la fidélité de Ruth, apparaissent clairement différents aspects de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Et un des enseignements spirituels les plus profonds à retirer de l'histoire de Ruth, c'est celle d'un pécheur qui est perdu et qui, à travers certaines circonstances et la providence de Dieu, est amené à commencer à poursuivre une relation avec l'Éternel pour devenir ainsi l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Et ce livre nous enseigne non seulement que Dieu est le sauveur d'Israël, mais qu'il veut que tous les hommes parviennent au salut. Vous dites « Amen » à ça ce matin. Dieu dit « Je ne fais pas de favoritisme », mais Dieu veut que, dans un autre livre, dans le Nouveau Testament, il est écrit que Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Et ce matin, eh bien, moi, ce que je trouve de... Bon, j'ai dû lire les 5 chapitres pour pouvoir avoir une idée du livre, lire et relire les 5 chapitres. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que souvent, Dieu va au-delà de la logique humaine. Ruth, c'est même pas une fille, c'est même pas une fille qui est originaire du peuple juif, c'est même pas une fille qui vient, qui appartient à une tribu d'Israélites, c'est une femme qui vient de Moab, et Dieu va utiliser cette femme pour faire en sorte qu'elle devienne la grand-mère du roi David. C'est extraordinaire, quoi. Alors que nous, souvent, on est très attachés, on dit oui, si, bon, il n'est pas né dans l'Église, on ne peut pas lui donner ça, il n'est pas né dans l'Église, il ne peut pas vraiment faire ça, et ainsi de suite. Et Dieu, au-delà de toute logique, eh bien, Dieu a un plan prévu d'avance, et Dieu, au-delà de toute logique, dans sa préscience, eh bien, avait déjà choisi Ruth pour qu'elle fasse partie de la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu va au-delà de la logique humaine. J'aurais aimé avoir le temps d'examiner tout le livre ce matin, mais cela n'est pas possible. Et ce que j'aimerais faire, c'est regarder uniquement le premier chapitre, prendre les quelques minutes qu'on a devant nous pour regarder le premier chapitre et faire ressortir ce qui se trouvait dans le cœur de cette femme qui s'appelle Ruth ce matin. Et dans ces versets, et également à travers tout le livre, nous verrons que Ruth est un exemple formidable pour nous tous d'une vie résolue et inébranlable. Elle nous enseigne comment demeurer fidèle dans notre engagement, même lorsqu'il y en a d'autres autour de nous qui ne le sont pas. Et j'aimerais qu'on rejette un regard sur ces versets et examiner cet exemple d'une vie exemplaire. Dans les versets 1 à 7, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, l'auteur nous raconte que Ruth était une Moabite, qu'elle faisait partie d'une nation qui vivait dans le péché, qui avait déjà été jugée et condamnée par le Seigneur. Et ça aussi, ça dépasse notre logique, ça. Pourquoi Dieu va chercher une femme qui appartient à une nation qui baigne dans le péché, qui est condamnée, qui est jugée par le Seigneur? Pourquoi Dieu va aller chercher cette femme-là? C'est que Dieu regarde au cœur. Nous regardons aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et quand je regarde Noémie, je regarde le premier chapitre, et quand je regarde sa vie par après, je m'aperçois que si on la comparait, si Naomi était l'image, on pouvait reproduire en elle l'image d'un certain chrétien, moi je pourrais dire que Naomi, c'est une personne qui était chrétienne, qui est l'image du chrétien qui vit selon les circonstances. Lorsqu'elle dit à la fin qu'elle est partie les mains pleines, qu'elle est revenue les mains vides, ben, elle a oublié pourquoi elle avait quitté Israël pour aller chez Moab. C'est parce qu'il y avait une famine à Bethléem et qu'elle avait rien. Alors, elle est partie les mains vides. Et elle est revenue finalement les mains pleines puisqu'on lui annonce que la famine est terminée, que Dieu bénit les récoltes en Israël. Donc, elle revient aussi avec une belle fille. C'est vrai qu'elle a perdu un mari et 2 fils, mais elle ne peut pas dire qu'elle est partie les mains pleines pour revenir les mains vides, quoi. Et on voit à travers finalement la pensée de Naomi, que souvent, c'est quelqu'un qui marche par la vue, par les apparences. Et Ruth, je trouve qu'elle est un bon exemple. En tout cas, Ruth va nous enseigner ici qu'elle est un bon exemple pour nous, chrétiens, qu'un des pièges mortels dans lesquels souvent on tombe, c'est de fonctionner par les apparences. Et quand on fonctionne par les apparences ou sur ce qu'on entend, eh bien, souvent, on tombe dans la déprime et on éloigne nos regards de Jésus-Christ, celui qui nous donne sa paix, qui nous donne sa joie, qui nous permet d'avancer pas à pas, jour après jour, eh bien, dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Et finalement, ben, on a le même regard que les gens du monde. On est déprimé, on est découragé souvent et abattu. Et ici, eh bien, Ruth représente toute personne. Quand je parle ici qu'elle était perdue en tant que Moabite et qu'elle se trouvait dans une condition désespérée, Ruth, elle représente toute personne qui vit sans aucune relation avec Jésus-Christ. Et en tout cela, et tout cela à cause d'un seul homme, Adam, par qui le péché est entré dans le monde, nous dit l'apôtre Paul, et à travers le péché, la mort. Et Paul continue en nous disant que la mort a atteint tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Et nous savons que la connaissance du péché, c'est quoi? La conséquence du péché, c'est la colère de Dieu qui demeurait sur nous. Et Paul continue en disant que nous étions tous privés d'entrer dans la présence de Dieu. Mais c'est pas nous qui avons choisi de passer l'éternité avec Dieu, c'est que Dieu, depuis toute éternité, avait choisi qu'on passe l'éternité avec lui, qu'on entre dans sa présence maintenant et pour l'éternité. Ça, c'est extraordinaire. Ça fait partie de la grâce de Dieu. Ça fait partie de la compassion de Dieu. Ça fait partie aussi de la bonté de Dieu. Et en cela, on ne mérite rien. C'est ça qui est une grâce, quoi. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. On mérite l'enfer et Dieu nous donne le paradis. Il ne nous donne pas en fonction de ce qu'on a fait. Il nous donne en fonction de ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Ça, c'est extraordinaire. On doit toujours... Il y en a qui portent des croix dans leur cou comme décoration. Ça veut rien dire, c'est un symbole. Mais quand la croix devient une réalité dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, eh bien, il y a un miracle qui se produit. On appelle ça le miracle de la nouvelle naissance. Et là, notre monde change. Voilà. Et tout est permis. Verset 5. Les versets 3 et 4 nous apprennent que Naomi avait perdu son mari, que ses deux fils épousèrent des femmes moabites. Alors, le texte nous dit que dans les deux femmes, on nomme leur nom. Il y avait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et au verset 5, nous apprenons qu'une dizaine d'années plus tard, les maris de Ruth et d'Orpa vont mourir à leur tour. Et Naomi va rester seule, privée de ses enfants et de son mari. Et les deux jeunes veuves vont donc se retrouver sans aucun moyen pour subvenir à leurs besoins. On est à une époque où il n'y a pas d'aide sociale, on est à une époque où il n'y a pas d'assurance chômage. Les veuves, eh bien, quand leur mari mourait, elles vivaient avec tout ce qui pouvait rester, et souvent, il ne restait pas grand-chose, quoi, en dépendant de la classe dans laquelle elles appartenaient. Et ici, les veuves, eh bien, elles n'ont aucun moyen pour subvenir à leurs besoins et sans espoir pour leur avenir. Elles vivaient chacune une épreuve terrible. Et la logique semble démontrer que leur seule chance de salut consistait à retourner dans leur famille, chez les Moabites, et peut espérer se marier. Et à travers leurs conditions ici, nous pouvons voir là une image de l'homme. Job nous rappelle dans Job chapitre 14, verset 1, il nous dit, « La vie de l'homme est courte et remplie de tourments. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Oui. Et ça, c'est particulièrement vrai dans la vie de ceux qui sont perdus. Particulièrement vrai dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et on le voit à l'extérieur aujourd'hui, on vit dans une crise où les gens... sont remplis de tourments, où la vie des gens est agitée parce que tu te couches le soir sans savoir ce qui t'attend le lendemain matin. Ça, c'est vrai, tu ne sais pas ce qui t'attend le lendemain matin. Et la plupart des gens disent aujourd'hui, que je m'endors ce soir, mais je sais pas quelle tuile va me tomber encore demain sur la tête. Mais parce qu'on est les enfants du Seigneur, on sait que le Seigneur tient notre destinée entre ses mains. On sait que si on marche fidèlement dans sa parole, on n'est jamais seul, il est toujours là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Et il est toujours là pour nous relever quand on tombe aussi. Amen. Leur vie ici, la vie de Ruth et d'Orpa, eh bien, elle s'annonce difficile et rude parce que elles sont veuves. Et au verset 6, et la première partie du verset 7 ici, qu'est-ce qu'on voit? Naomi qui se retrouve encore au pays de Moab et qui apprend que le Seigneur avait été favorable à son peuple et que la famine qui avait poussé sa famille à quitter Bethléem était maintenant terminée. Le texte, qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'Éternel avait visité son peuple, lui avait donné de bonnes récoltes. Et qu'est-ce qu'elle va faire au verset 7? Elle va se préparer à retourner au pays de Juda, accompagnée de ses deux belles-filles. En fait, il n'y a plus rien qui la retient en Moab, puisqu'elle a perdu son mari et puisque la famine est terminée en Israël. C'est purement une hypothèse ici que je vais donner, donc c'est pas un dogme, mais il est possible que Ruth et Orpa, en étant mariés ou en ayant eu des maris qui faisaient partie du peuple d'Israël, eh bien, avait entendu parler de l'histoire incroyable des Israélites et de la puissance que Dieu avait manifestée lorsqu'il avait libéré son peuple des Égyptiens. Probablement que le mari de Naomi en avait parlé, probablement aussi que quand il y avait les réunions de famille, eh bien, Naomi en avait parlé, elles avaient raconté finalement de leur origine, elles avaient raconté quel Dieu ils adoraient, elles avaient raconté comme il était demandé chez les Israélites de répéter à leurs enfants finalement ce que Dieu avait accompli parmi le peuple d'Israël. Et ça, c'est mon hypothèse, que ça avait sûrement parlé au cœur de Ruth et d'Orpah, qui connaissaient finalement l'histoire d'Israël, au point où elles désiraient suivre leur belle-mère. Parce que leur première réaction, en fait, aux deux, quand vous lisez le texte, c'était de suivre leur belle-mère. Peu importe ce qui les a poussés à la suivre, finalement, pour abandonner leur peuple et leur famille, il est intéressant de remarquer qu'au commencement, les deux jeunes femmes prennent la décision de partir avec Naomi pour aller s'établir en Israël. Moi, je pense que c'est précisément de la même façon, de cette façon que la vie nouvelle en Jésus-Christ commence. Nous entendons parler de lui, de ce qu'il a fait pour nous. Puis nous prenons la décision d'abandonner notre ancienne vie et même parfois de délaisser notre propre famille pour suivre Jésus-Christ dans ce nouveau royaume qu'il a établi, qui comporte de nouvelles règles et qui s'appelle le royaume de Dieu. Amen? Oui, oui. Si vous êtes ici ce matin, eh bien, le miracle, c'est que vous avez entendu parler un jour de Jésus-Christ. C'est que quelqu'un qui vous a parlé de l'espérance que Jésus a déposée dans son cœur. C'est que quelqu'un qui vous a parlé de la joie et de la paix que Jésus-Christ a déposée dans son cœur à travers l'Évangile qu'il a entendu. Ça, c'est la raison principale pourquoi vous êtes ici ce matin, et c'est une des raisons aussi pourquoi vous avez cette espérance vivante dans votre cœur. Vous savez non seulement que Jésus est mort pour vos péchés, vous savez qu'il est ressuscité, et vous savez aussi qu'un jour il revient. Et il dit dans Apocalypse, « Je reviens bientôt. » Amen. Et qu'il revienne bientôt mettre fin à toute cette misère qui se trouve dans le monde dans lequel on vit, et qui n'est pas le monde que Dieu a voulu créer, mais le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu. Verset 7, la deuxième partie du verset 7 au verset 15. Le texte nous dit, elles partirent ensemble, et en chemin, Naomi va encourager ses deux belles filles à retourner chacune dans la maison de leur père. Elle prie que le Seigneur soit bon. C'est ce qu'elle fait ici. Elle prie que le Seigneur soit bon pour elles, comme elles l'ont été pour ceux qui sont morts et pour elles-mêmes, et qu'il leur permette de rencontrer chacun un mari et de trouver le bonheur dans sa maison. Verset 9. Telle est la condition du cœur de Naomi qui cherchait à empêcher ses belles-filles à se rendre avec elle dans la terre promise. En fait, Naomi, qui fonctionne par les apparences, qui fonctionne selon les circonstances, elle remet en question ici l'engagement qui est pris par ses belles-filles de la suivre. Et elle les invite à retourner vivre dans le pays de Moab, un pays païen où régnait le péché et la méchanceté, pour garantir leur sécurité. Et frères et sœurs, combien aussi, parmi les membres du peuple de Dieu, il y a des gens qui vont refuser de suivre Jésus-Christ parce que le diable a réussi à les convaincre, a réussi à amener en eux la crainte, cet esprit de sécurité dont les gens courent tellement dans le monde aujourd'hui. Frères et sœurs, la vie est remplie de remises en question. Et Satan aimerait tellement nous distraire et nous faire passer à côté de la vie chrétienne qui est la nôtre. Il nous placera, vous et moi, dans des situations où nous serons amenés à prendre des décisions pour nous empêcher de nous rendre jusqu'au bout de la course qui est la nôtre. Vous êtes amen à ça? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire miroiter une fausse sécurité pour nous amener à nous détourner du Seigneur. La façon dont nous allons répondre à ces remises en question qui apparaissent à des moments précis de notre existence va révéler beaucoup de choses sur la profondeur et le sérieux de notre engagement. Dans ces versets ici, Dieu nous accorde le privilège de voir Ruth et Orpah être placés devant une situation. Oui, je dirais être placés devant une telle situation et la façon dont chacune va réagir. Les deux vont dire, oui, moi, je suis prête à te suivre. Mais finalement, avant de partir, il y en a une des deux qui va changer d'avis. Moi, la question que je me suis posée, pourquoi il y en a une qui change d'avis et pourquoi il y a l'autre qui maintient sa décision? Il y a combien de gens qui lèvent la main pour accepter Jésus-Christ, qui s'avancent en avant quand on fait un appel? Et bon, sur 12 ou 10 ou 5 ou 2 ou 3 personnes, il y en a toujours un certain nombre qui, après avoir dit oui, eh bien, changent de décision et retournent là où ils étaient auparavant. Qu'est-ce qui les amène à agir ainsi? Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. J'espère que ça va vous parler ce matin. Versets 10 à 13. Naomi tente de persuader ses femmes de retourner dans la maison de leur mère parce qu'elle n'a plus de fils à marier, qu'elle n'est plus en âge d'avoir des fils qui pourraient les épouser, selon la loi du Lévitique du mariage. Et si vous voulez avoir une idée de comment ça se passe, vous allez dans Matthieu 22, les versets 23 à 29,
lorsqu'on veut parler de la résurrection des morts et que les scribes et les pharisiens viennent mettre en surface, pas les pharisiens ni les scribes, mais les sadducéens, pardon, qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, vont venir amener à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, il y a une femme qui marie un frère, et puis, bon, elle marie un homme, il meurt, elle marie son frère, il meurt, il marie son frère, il meurt. Bon, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire lors de la résurrection des morts, cette femme, elle sera l'épouse de qui? C'est bien l'homme, ça, hein? Qu'est-ce que Jésus leur répond? Vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ouais. Vous ne connaissez ni les Écritures, c'est vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Vous êtes attaché à la loi, mais vous ne connaissez pas le cœur de Dieu, ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Et ici, eh bien, Ruth est en train de leur dire qu'écoute, même si elle sera mariée, même si elle avait des enfants, ses belles-filles, supposons qu'elles ont 26 ans, hein, si elle a des fils, il n'y a rien qui garantit qu'elle aura des fils, elle peut avoir des filles aussi. Hein. Êtes-vous prête à attendre 20 ans, ou 25 ans, ou 14 ans, pour vous marier avec peut-être des fils que j'aurai, hein, selon la loi du Lévitique? Et là, ben, écoutez, Naomi, elle dit, ben, je pense que même le temps d'avoir des enfants est passé pour moi. Alors, elle ne veut pas que ses belles-filles attendent, que ses garçons aient grandi pour pouvoir espérer les marier. Et elle va tenter une deuxième fois. Regardez la façon, elle est différente cette deuxième fois. La première fois, elle leur demande de retourner pour se marier dans le pays de Moab. Et la deuxième fois ici, elle persuade ses belles-filles de retourner dans leur famille d'origine, remettant ici en question l'engagement qu'elles ont pris de vivre en Israël, en mettant de l'avant les difficultés plutôt que les privilèges et les promesses qui attendent les gens qui font partie du peuple de Dieu. Frères, souvent, c'est un outil que le diable utilise. C'est la semaine passée qu'on a parlé du coffre d'outils du malin, oui. C'est un des outils que le diable utilise pour nous décourager. Mettre de l'avant les difficultés qui nous attendent parce qu'on est chrétien, plutôt que les privilèges que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Et les promesses qui accompagnent ces privilèges. Les promesses, ce sont les bénédictions qui accompagnent les promesses. Le diable, il fait en sorte, il sort l'outil de découragement de son coffre d'outils. Et là, il nous brandit. Et là, il nous garde fixés, les yeux fixés sur les difficultés. Et quand on a les yeux fixés sur les difficultés, on perd de vue les privilèges et les promesses. Ouais. Et les promesses, c'est quoi dans Isaïe? Je serai toujours avec toi. Peu importe ce que tu vis, je serai toujours avec toi. Si tu marches dans mes voies, tu n'as rien à craindre, je serai toujours avec toi. Et rappelle-toi que l'épreuve que je te permets de passer, les difficultés que je permets que tu aies devant toi, ce n'est pas pour te démolir, ça peut être soit de te corriger si tu t'es déplacé dans la voie que je t'ai donnée, mais c'est surtout aussi pour te faire grandir dans ta foi. Amen. Mais si le diable réussit, en sortant dans son coffre d'outils, l'outil du découragement, puis qu'il brandit, on a les yeux rivés sur les difficultés. Et plutôt que de se rappeler de la promesse que Dieu nous fait dans Isaïe, qu'il sera toujours avec nous, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, parce que ça fait partie, ça. Il y a l'outil du découragement, il y a l'outil de l'abandon de Dieu. Puis là, le diable, quand il a réussi à sortir, de brandir, de nous faire accepter l'outil du découragement, bien, tous les autres outils viennent. Ça sort un par un, quoi. On hérite du coffre au complet, quoi. Et on est déprimé, quoi. On remet en question notre salut, on remet en question les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. J'ai commis un péché, je pense que Dieu ne sera jamais capable de me pardonner. Il y a combien de gens qui viennent me voir et me dire, « Pasteur, je pense que j'ai commis de péché contre le Saint-Esprit. » Le péché qui mène à la mort. Il y a combien de gens qui viennent me voir? Mais c'est pas ça du tout quand vous regardez le contexte dans les évangiles, le péché contre le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est laissé prendre au piège du malin. Et ici, Naomi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit pas, écoutez, elle ne met pas en lumière les privilèges et les promesses qu'accompagneraient ces deux belles filles si elles l'accompagnaient en Israël. Elle fait ressortir les difficultés. Elle est un outil entre les mains du diable pour décourager ses deux belles-filles. Écoutez, elle préfère les inviter à retourner dans un peuple qui est déjà jugé, condamné. Quand vous lisez dans le livre des Nombres, Moab, il n'y a pas un péché que Moab ne faisait pas, que ne pratiquait pas, quoi. Je dis pas que le peuple d'Israël était mieux, mais au moins le peuple d'Israël avait hérité de la loi de Dieu, quoi. Et là, c'est ce qu'elle fait, quoi. Et frères et sœurs, c'est une bonne leçon pour moi, en tout cas. Parce que des fois, ça arrive que, vous savez, on a tous notre courbe, hein. Et quand on rencontre des gens, puis qu'ils savent qu'on est chrétien, et puis qu'à travers nos paroles, eh bien, on leur parle de toutes les difficultés qu'on vit. Pas qu'on oublie de nommer Dieu à travers ça. Puis que finalement, ils se reconnaissent à travers nous parce qu'ils vivent à peu près les mêmes difficultés. Mais eux, parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, sont sans espérance. On est en train de leur faire passer souvent le message qu'on n'a pas plus d'espérance qu'eux, alors qu'on a hérité de quelque chose d'extraordinaire, quoi. Alors que c'est pas à travers nos bras qu'on lutte contre l'esprit qui règne dans ce monde. Et c'est Christ qui a déjà remporté la victoire à travers, qui a déjà remporté la victoire pour nous, frères et sœurs. Amen. Oui. Qu'on soit pas des chrétiens qui fonctionnent par les circonstances, qui fonctionnent par la vue, par les apparences, mais qu'on se rappelle des promesses du Seigneur, quoi. Ouais. Et c'est des gens qui sont portés à brandir nos péchés, à les ramener devant notre face, les péchés qu'on a faits avant. La parole nous dit que lui, il s'en souvient plus, quoi. Maintenant, ça veut pas dire qu'on doit prendre plaisir à vivre dans le péché. Je dis pas ça du tout. Ça, Dieu a ça en horreur, quoi. Et je suis en train de dire que Dieu, à travers la bouche de Jésus-Christ, nous dit dans les évangiles, je ne rejette personne qui vient à moi. Personne. Y compris ses enfants. C'est pas juste un passage pour les non-chrétiens, c'est aussi un passage pour les enfants de Dieu, quoi. Amen. Si vous êtes déprimé ce matin, il n'y a pas un péché, un seul péché, que Dieu ne peut pas vous pardonner ce matin. Pas un. Pas un seul. Ça, c'est important. Le diable cherche à nous décourager, à nous faire retourner en arrière en mettant de l'avant les difficultés plutôt que les privilèges et les promesses qui nous attendent si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, si nous voulons le servir. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous le persécuteront aussi. Et il nous dit pourquoi. Et ils agiront parce qu'ils n'ont pas connu le Père et moi. Et de plus, ils vont penser, ils vont vous persécuter en pensant qu'ils font bien. Mais ils font ça parce qu'ils ne me connaissent pas moi ni le Père. Frères et sœurs, on n'est pas plus grand que Jésus. S'il a été persécuté, c'est une promesse qu'il nous fait. Et ils vont aussi vous persécuter. La question qu'on peut se poser ce matin, ça remonte à quand la dernière fois qu'on a été persécuté pour le nom de Jésus? Mais c'est une promesse qu'il nous fait. Nous, on s'accroche aux promesses, quelqu'un a dit, des promesses positives. Les récompenses. Mais les promesses négatives. Ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Et pourquoi ils vont vous haïr? Parce que vous mettez en lumière ce qu'ils font dans les ténèbres, de mauvais. Et la persécution, ça fait aussi partie des promesses négatives. Mais ça nous démontre aussi souvent qu'on est sur le bon chemin. Qu'on est en train de marcher là où notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a marché. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. À la Pâque l'année passée, c'était ma première expérience avec Madeleine, et je voyais la réaction des gens qui passaient et qui riaient, qui se moquaient parce qu'on annonçait l'Évangile. Je me disais, écoute Seigneur, il y a 15, 20 personnes, 30, 40 personnes qui passent en même temps, et nous, on se satisfait, Seigneur, tu nous permets de nous limiter en même temps, que des gens se moquent de nous par groupe de 30 ou 40. Mais la Bible ne nous rapporte pas tous les moments où on s'est moqué des apôtres. Tous les moments où même, il y en a qui ont probablement réagi négativement, c'est-à-dire en moquerie par rapport à Jésus-Christ. Bon, on a les larrons sur la croix, on a d'autres moments aussi où les gens se sont moqués, mais il y a des gens qui se sont moqués de Jésus-Christ. Christ n'a pas été par nous aussi par les moqueries, même s'il était fils de Dieu, même s'il était Dieu fait homme. Ouais. Et ça fait partie des tribulations, ça fait partie des persécutions. Dans quel but? Uniquement dans le but qu'on se taise et qu'on ne proclame pas ce message d'espérance qu'on a hérité du Seigneur Jésus-Christ. Et qui nous a été révélé par un chrétien qui a osé ouvrir la bouche pour nous annoncer cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et là, le Seigneur, le diable, il réussit à nous amener dans le découragement et on perd de vue qu'il n'est pas juste le sauveur du monde, qu'il est la résurrection et la vie. Et on oublie ce que Paul dit. De la même manière que Christ a été ressuscité, ramené de la mort à la vie, de la même manière, avec la même puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus-Christ de la mort à la vie, il va vous ramener aussi de la mort à la vie. Espérance vivante, c'est pas extraordinaire, ça. Amen. Hein? Hey, vous êtes pas dans un salon mortuaire ici ce matin, hein? Vous êtes dans une église, vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous dites amen ce matin. Oui. J'espère que c'est votre espérance. Que si Dieu reprend votre dernier souffle ce matin, le souffle de vie qu'il a déposé en vous, eh bien, vous avez cette certitude que vous allez vous retrouver devant lui et qu'il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Ouais. Frère, comment réagissons-nous lorsque certaines difficultés de la vie nous amènent à remettre en question notre engagement chrétien? Ouais. J'ai dit nous, hein, parce que là, je m'inclus là-dedans. Hein. Ouais. J'ai pas dit vous, là. Hein. Nous. Beaucoup de gens réagissent en se détournant du Seigneur et vous pouvez le voir dans leur façon de vivre. Cependant, tout comme Job, à travers les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie et les nombreuses remises en question qu'il a dû faire face, à travers les propos de ses amis, les défis de la vie devraient nous amener à nous rapprocher du Seigneur et à le connaître davantage, au point de dire comme Job le fit à son époque, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ouais. Et juste là-dessus, Job dit, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Hey, » quelle humilité, quoi. Il confesse que son oreille l'avait entendu. Il dit, « Maintenant mon œil t'a vu. Je pensais te connaître parfaitement, mais je me suis aperçu que je te connaissais à peine. » Mon œil, mon oreille t'a entendu parler de toi maintenant, mon œil t'a vu. Je me condamne et je me repens. Repens. Ouais. Je ne suis pas convaincu que j'aurais fait ce que Job a fait, moi, avec tout ce qu'il a vécu. Quand on le regardait par terre, il avait de l'air d'une crêpe qui avait été ratée, quoi. Il n'était pas regardable, Job, quoi. Une grosse croûte qui traînait par terre, c'est ce que le texte nous dit, hein. Le texte hébreu, quoi. Il était. Je ne sais pas quelle maladie il avait, mais on était incapable de le regarder. Et en cela, Job n'a point péché. Il n'a pas dit, « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Nu, je suis venu au monde, et nu, je partirai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, dit Job. » Ouais. Et ça devrait être notre parole ce matin. Seigneur, je suis venu au monde nu, je suis sorti du ventre de ma mère nu, et Seigneur, je vais retourner nu, et ce que tu m'as donné, Seigneur, je sais que je ne pourrais pas rien apporter. Mais je sais que les œuvres que j'ai accomplies, Apocalypse chapitre 14, verset 13, ces œuvres-là, elles vont m'accompagner. On l'a vu la semaine passée, hein? Heureux tous ceux qui meurent dans le Seigneur, car, elle est déjà oubliée. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et car leurs œuvres les suivent. Amen. Et quelqu'un cette semaine que je parlais avec, il me disait, leurs œuvres, c'est leur récompense. Leur récompense va les œuvres qu'elles ont accomplies, c'est les récompenses. Je ne suis pas en train de dire qu'on gagne notre salut par les œuvres. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance qui vont demeurer pour l'éternité. La semaine passée, j'ai mis l'emphase sur l'évangélisation, mais il y a des œuvres. Seigneur Jésus, quand vous allez visiter, vous allez donner de l'eau à quelqu'un, c'est comme si vous me l'aviez donné. Quand vous allez voir les malades, quand vous allez voir les prisonniers, ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand vous invitez quelqu'un à manger chez vous, en n'espérant pas qu'il vous invite en retour, ça fait partie de l'esprit de mon royaume aussi. Ça fait partie des récompenses. Mais si tu invites quelqu'un à manger chez toi, en espérant qu'il t'invite, puis qu'au bout de 3 mois, il ne t'a pas invité, puis tu tires la figure, tu n'as pas de récompense, quoi. Tu ne l'as pas fait me glorifier, tu l'as fait pour ta gloire à toi, quoi. Tu l'as fait pour augmenter ta renommée, pas la mienne. Et ça, c'est des œuvres qui vont nous accompagner. On pourra en donner une liste. Bon, rapidement, quelle heure est-il? Examinons maintenant la réponse de ces deux femmes, versets 14-15. Lorsque les deux belles filles vont entendre les paroles de Naomi, elles pleurent de plus belle. Finalement, Orpah, elle embrasse sa belle-mère pour prendre congé et retourner dans son pays. Naomi dit à Ruth, regarde ta belle-sœur et retourne vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. Quelle sera la réaction de Ruth ici? Versets 16 à 22. Elle s'engage à vivre dans un nouveau pays. Elle est prête à suivre Naomi là où elle va. Elle est prête à laisser Moab derrière elle à tout jamais et à suivre Naomi en Israël. Elle est prête à tout abandonner pour suivre Naomi. Elle dit à Naomi, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Frères et sœurs, combien de gens ressemblent à Arpa que nous connaissons ce matin? Ils font face aux défis de la vie en fuyant et en retournant faire les œuvres qu'ils faisaient dans le passé. C'est ce qu'Arpa, c'est ce qui attendait Arpa. Elle retourne dans un monde païen où baigne le péché et la méchanceté. Elle retourne dans les œuvres qu'elle faisait dans le passé. Frères et sœurs, que cette façon de faire ne soit jamais, jamais la nôtre, même si l'ennemi de nos âmes cherche par tous les moyens à nous faire abandonner le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que nous puissions avoir la force de lui dire, je n'abandonnerai pas, je ne retournerai pas en arrière, je vais persévérer jusqu'à la fin parce qu'une grande récompense m'attend. Amen? Oui. Et la grande récompense, c'est quoi? Le salut de vos âmes qui est le but de votre foi et la résurrection des morts. Et aussi vivre sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu un jour créera. Le problème avec Orpa, c'est que son ancien peuple et ses anciens dieux occupaient encore beaucoup de place dans son cœur. Elle était toujours une Moabite parce que son cœur n'avait jamais été changé. Amen. Vous savez à qui me fait penser? À la femme de Lot. À quel moment on a su que la femme de Lot, finalement, c'était une chrétienne de nom, une croyante de nom? C'est à partir du moment où elle a dû faire un choix entre quitter le monde et suivre la parole de Dieu, qui demandait à Lot de quitter cette ville parce qu'il y avait un châtiment qui avait été prononcé contre cette ville. Dieu n'a pas demandé grand-chose, hein? Il a simplement demandé, quand vous allez sortir de la ville, que personne ne regarde en arrière. La seule chose que la femme de Lot a fait, elle a fait quelques mètres, elle s'est tournée, elle était changée en statue de sel. Le jugement de Dieu est tombé directement sur elle. Et cette image de la femme de Lot, ça me rappelle une parole de Jésus qui nous dit que nous sommes le sel de la terre. Ouais. Et aussi une parole de Jésus, je me demande s'il n'y avait pas en tête l'histoire de la femme de Lot lorsqu'il dit que quiconque regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu dans Luc. Quiconque regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. Ouais. La femme de Lot était changée en statue. Et je pense que c'est une belle image pour le croyant qui continue à vouloir aller de l'avant, mais aussi à traîner son passé, à vouloir continuer à vivre dans le passé, à vouloir garder ses anciennes connaissances, à vouloir garder ses anciennes activités. Eh bien, il ressemble à une statue de sel, parce qu'on est le sel de la terre, mais une statue, c'est mort. Une statue, elle est morte. Une statue, vous pouvez parler avec, mais elle ne dégagera jamais rien puisqu'elle est morte, elle est sans vie. Vous pouvez lui parler? Vous pouvez dire, écoute, donne-moi un coup de main, aide-moi, comme beaucoup de gens font dans les religions qu'on connaît. Mais ils n'obtiendront aucune réponse parce que la Bible nous dit que ces statues, elles sont sans vie. Ces statues, elles n'ont pas d'âme. Elles ne peuvent pas vous répondre. Non seulement elles ne peuvent pas vous répondre, mais elles ne peuvent pas vous entendre puisqu'elles sont sans vie. Et moi, je trouve que c'est une belle image aussi du chrétien qui est partagé, un cœur partagé. Un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Il ressemble à une statue de sel. Toujours en sel, sel de la terre, mais c'est une statue. Il est mort. Dieu ne peut pas agir à travers lui, comme une statue ne peut pas agir dans la vie des gens. Et moi, je pense à Orpa, en tout cas, c'était la première image qui m'est venue. Quand elle l'a quitté, elle a décidé de retourner en Moab. Verset 16, deuxième partie du verset 16. Après le départ d'Orpa, Ruth s'accroche à Naomi. Elle est déterminée à demeurer avec sa belle-mère. Et cela nous permet de voir la condition de son cœur. Elle nous montre par ses actions quelle est la meilleure façon de réagir et de répondre lorsque nous sommes mis au défi de prendre des décisions qui vont changer la direction de notre vie. Nous pouvons constater que le cœur de Ruth est un cœur résolu et inébranlable. Et Jacques nous dit ce que c'est un cœur qui est irrésolu. Frères et sœurs, au lieu de nous amener à nous éloigner de nos engagements, les difficultés de la vie devraient nous amener à nous attacher encore plus fortement au Seigneur. Dans son engagement, Ruth démontre le fait que son cœur a été changé, et qu'elle est prête à suivre un nouveau Seigneur dans un nouveau pays pour vivre une nouvelle vie. Elle est prête à se soumettre à Naomi et de permettre à Naomi de guider sa vie pour vivre dorénavant sa vie, selon les mœurs et les coutumes du peuple d'Israël. Dans le verset 16, qu'est-ce qu'on voit? Elle s'engage à adopter un nouveau style de vie. Elle est prête à abandonner son ancienne manière de vivre, qu'elle a héritée de ses ancêtres, les Moabites. et accepter de se conformer à vivre selon les règles qui régissent la manière de vivre d'Israël. Et frères et sœurs, quand on prend une décision pour Jésus-Christ, c'est pas juste de dire, ben Seigneur, merci de m'avoir pardonné mes péchés, mais si le message de l'Évangile est complet, c'est aussi à travers la nouvelle naissance prendre une décision de changer de vie, d'abandonner ce qu'on a reçu de nos ancêtres, l'enseignement qui est contraire à Dieu, qu'on a reçu de nos ancêtres, et à marcher dorénavant et obéir à l'enseignement qui est contenu dans la parole de Dieu. Ça, c'est tout un contrat. Ça, c'est le contrat que Dieu s'est donné, quoi. Et si on n'obéit pas, bien, il nous ramasse de temps en temps, à travers des corrections, à travers des frères, à travers des sœurs, mais il vient nous chercher. Pourquoi? Pas parce qu'il nous déteste, parce qu'il nous aime. Qui aime bien, châtie bien. Alors, on n'aime pas dire le mot châtie aujourd'hui, en 2013, mais c'est un terme biblique, quoi. Dieu aime et il nous corrige. J'ai pas toujours aimé les corrections que mon père m'a données, mais s'il était toujours en vie aujourd'hui, je le bénirais de m'avoir donné les certaines corrections qu'il m'a données. Parce que je serais peut-être pas là aujourd'hui, je serais peut-être même pas en vie aujourd'hui, tellement j'étais fou, tellement j'étais entêté, tellement j'étais un insensé. Et en vieillissant, je me suis dit, mon père m'a châtié parce qu'il m'aimait. S'il m'avait pas aimé, il m'aurait laissé à vivre comme je voulais vivre ma vie, et je serais mort aujourd'hui. Et mes parents étaient loin d'être parfaits. J'en ai voulu pendant des années à mon père, pour toutes les corrections qu'il m'a données. Mais en tant que chrétien aujourd'hui, je bénis le Seigneur de m'avoir donné des parents comme j'ai eu. Si mes parents avaient utilisé la psychologie avec moi, ça ferait longtemps qu'ils auraient envoyé promener. Tellement j'étais entêté. Il n'y avait rien qui rentrait dans ma tête. Et on hérite des enfants qui sont bornés comme ça. Et il faut leur tenir tête, il faut briser leur volonté. Je n'aimerais pas des prénoms. Il n'y a pas juste des Jacques. Il y en a d'autres qui portent des noms bibliques aussi. Et heureusement qu'on a des parents qui nous aiment et qui tiennent bon. Et Dieu, il est comme ça. Il n'est pas seulement un créateur, il n'est pas juste un sauveur, il est aussi un père. On est ses enfants. On fait partie de sa famille. L'Église, c'est pas juste le bâtiment. L'Église, c'est le contenu. C'est les gens. C'est une famille, quoi. Amen. Moi, je ne sais pas à quel âge j'ai commencé, mais on va arrêter bientôt. Ruth, elle est prête à couper tout lien avec Moab qui représente son ancienne vie. Et souvent, on a des gens qui viennent au Seigneur, on a des nouveaux chrétiens qui viennent et qui boitent et qui font 3 pas en avant, 4 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas coupé tous les liens avec leur ancienne vie. Ouais. Ils conservent leurs anciens amis dans le but de les amener au Seigneur. Et parce que ces amis-là n'acceptent pas le Seigneur et continuent à les fréquenter, qu'est-ce qui arrive finalement? C'est les anciens amis qui, lentement mais sûrement, réussissent à les attirer à l'extérieur. Ou qui vont les empêcher de grandir dans le Seigneur parce qu'ils réussissent à les inviter à participer à leurs activités qui ne sont pas de Dieu. Ruth, ici, elle veut faire partie de la nation avec laquelle elle fait alliance. Elle est prête à accepter de faire partie de cette nouvelle lignée, de cette nouvelle famille. Et frères et sœurs, n'est-ce pas ce qui arrive lorsque nous nous convertissons? Nous rejetons notre ancienne vie pour accepter de faire partie de cette nouvelle lignée, de cette nouvelle famille que représente l'Église, qui est aussi appelée l'épouse de Christ. Toujours dans le verset 16, elle s'engage à suivre un nouveau Seigneur. Et c'est peut-être la plus grande affirmation que Ruth fait. Elle est prête à abandonner les dieux de Moab et à suivre le vrai Dieu vivant d'Israël. Frères et sœurs, son affirmation ici est sa déclaration de foi en l'éternel Dieu. Verset 17, « Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. » Elle a tellement compris qui est Dieu, qui est le Dieu d'Israël, que de penser qu'elle pourrait gagner quelque chose à retourner dans son ancienne vie, dans son ancien peuple, pour elle, c'est une pure perte, quoi. Elle dit, « Là où tu mourras, je mourrai, c'est là que je serai enterré. » Elle dit à Naomi qu'elle est prête à se consacrer à ce nouveau plan tant et aussi longtemps qu'elle vivra. Elle invoque même la colère de Dieu sur sa propre vie. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein? J'ai jamais conclu une prière en disant, Seigneur, si je n'y tiens pas, que ta colère tombe sur moi, quoi. Mais elle le fait, quoi. Hey, c'est des paroles qui sont fortes, ce qu'elle est en train de dire ici, hein? Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Quelle est la réaction de Naomi face à la persévérance de Ruth, verset 18? Eh bien, quand elle voit que Ruth persévère, quand elle voit que Ruth persiste, eh bien, à vouloir l'accompagner, elle sert d'insister et toutes les deux vont aller à Bethléem. Et leur arrivée va provoquer de l'excitation dans toute la localité. Frère, ça me rappelle quelque chose. Quand il y a des nouvelles personnes qui se convertissent. L'excitation qu'il y a parmi le peuple de Dieu, quoi. L'excitation. Pas parce que le pasteur ou parce qu'un autre a fait un appel puis il y a des gens qui ont avancé. Non! Parce qu'il y a des gens qui se rajoutent au peuple de Dieu. Parce que le peuple, le royaume de Dieu s'est agrandi sur la terre. Et le peuple est dans une grande excitation. Parce qu'il va vivre avec ce frère et cette sœur maintenant, mais aussi pour l'éternité. Et c'est vrai qu'on doit être dans la tristesse aussi quand on invite des gens et que lors d'un appel, ils ne s'avancent pas. C'est vrai. Parce qu'on sait quelle est leur destinée éternelle. Mais on doit être dans une grande excitation aussi. Je vous dis pas de sauter au plafond, vous accrocher après les ventilateurs, tourner avec les ventilateurs. On n'est pas une église charismatique, quoi. Mais je suis en train de dire, écoutez, on peut louer le Seigneur, quoi. Dieu accomplit un miracle à chaque fois qu'il y a une conversion. C'est un miracle. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas un homme qui peut s'accaparer et dire, moi, j'en ai sauvé 10, moi, j'en ai sauvé 15. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui parle au cœur. Dieu n'a même pas besoin de nous, quoi. Ouais. Et on doit être dans une grande excitation parce qu'on peut dire, Seigneur, tu as visité ton peuple ce matin. Ton peuple est dans une grande joie, Seigneur, parce que quelqu'un est passé des ténèbres à la vie, parce que quelqu'un est passé de la mort éternelle à la vie éternelle, parce que quelqu'un avait une espérance décevante, maintenant il a hérité d'une espérance vivante en Jésus-Christ. Est-ce que je délire ou c'est la vérité ce matin? Oui, hein? Oui. On va finir. Ruth a vécu une vie résolue et inébranlable. Et frères et sœurs, regardez bien le plan de Dieu. Pourquoi Dieu, la logique de Dieu, là? Dieu tient pas compte de notre logique. Et Dieu, je pense, s'amuse des fois à défaire notre logique, nos méthodes. On doit évangéliser de telle façon si on va attirer les gens. On doit prêcher tel message si on veut que les gens se convertissent. Hey, prêchons l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu. Paul dit. Ouais. Elle sera introduite parmi les Israélites. Elle va se marier à un Israélite qui s'appelait Boaz et elle fera partie du peuple de Dieu. Elle deviendra la grand-mère du roi David et l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Moi, ça me fait rire des fois. Bon, là, je sors, j'en ai pas pour longtemps. Savez-vous à quoi ça me fait penser, cette image-là? Des fois, tu rencontres un jeune chrétien, il vient de se convertir, hein? Tu dis, écoute, toi, tu sais pas ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Bon, je suis pas en train de lui dire qu'il y a un grand ministère qui l'attend. Mais ça signifie quoi? Écoute, toi, tu vis à la seconde, tu vis à la minute, tu vis à l'heure, tu vis au jour le jour. Dieu vit dans l'éternité. Dieu a préparé des grandes œuvres pour toi. Il t'a pas pris. Il t'a pas amené dans son peuple. T'as pas sorti des ténèbres pour te faire entrer dans la lumière pour que tu restes assis sur un banc et t'attendre qu'il revienne un jour. Dieu, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et les plus grandes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, c'est de remplir ta bouche de ses paroles pour que tu les diffuses à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et là, vous dites ça à un chrétien, il dit, hey, Dieu, écoute, tu fais maintenant partie du peuple de Dieu. Marche dans la vérité. Dieu a de grandes choses en réserve pour toi. Oh non. Moi, j'ai pas de capacité. Mais justement, t'es qualifié, mon ami. Parce que c'est des incapables que Dieu veut utiliser. Parce que les capables, ils ont pas besoin de Dieu pour travailler. Dieu, c'est des incapables qu'il utilise et qui fait accomplir des miracles à travers eux, quoi. Parce que quand on arrive pour dire, Seigneur, moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit ce matin. Seigneur, moi, je suis incapable de toucher le cœur de personne ici ce matin. Mais Seigneur, fais en sorte que, à travers ma bouche, à travers ta parole qui sortira de ma bouche, les gens puissent être touchés, les vies puissent être transformées, les vies puissent être remises en question, que des gens puissent se lever et pas penser que juste le pasteur et les membres du conseil qui doivent proclamer l'Évangile, qui doivent s'investir dans l'Église. Seigneur, touche le cœur des gens. C'est toi qui agis, c'est toi qui pénètre. La parole, elle sort de ma bouche, mais c'est ta parole qui pénètre dans le cœur des gens. Tout ça est arrivé dans sa vie parce qu'elle a voulu à tout prix maintenir l'engagement qu'elle avait pris de se dévouer entièrement au Seigneur et à ne jamais revenir en arrière comme la femme de Lot et comme aussi Orpah. Et elle a continué à aller de l'avant malgré les difficultés, les remises en question qu'elle a vécues. Elle n'a jamais abandonné. Et ça nous rappelle ce qu'on voit le mercredi soir quand Paul dit « Sache, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. » Ah. » Une bande de découragés. Et Paul nous dit un peu plus loin pourquoi ils abandonnent la foi dans sa deuxième épître à Timothée. Pour l'amour du siècle présent. Ils ont détourné leur regard de ce qui faisait leur joie, de ce qui a fait leur salut, pour se tourner vers une espérance qui est décevante à l'extérieur. Donc, ils ne trouveront jamais la paix et la joie. Peut-on en dire autant de nous ce matin en terminant, frères et sœurs? Bien-aimés, ce que vous et moi, nous sommes fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, malgré les difficultés rencontrées à cause de notre foi. Ou est-ce que notre dévouement pour le Seigneur a tendance à varier au fil des turbulences de la vie? Où est notre cœur ce matin, frères et sœurs, en terminant? Rassemble-t-il plus Arpa qui a choisi le chemin le plus facile, ou rassemble-t-il plus sa Ruth qui a persévéré malgré les difficultés rencontrées pour remporter la victoire ultime de la foi? Y a-t-il des choses que vous avez besoin de mettre en règle avec le Seigneur ce matin? Si c'est le cas, prenons quelques instants, courbons la tête. Prenons quelques instants pour laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Je vais inviter les musiciens à venir en avant.